Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous arrivons à la fin de notre série. Et comme je vous ai dit, ce numéro 13 sera un peu particulier. Et j'ai reçu dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, excusez-moi, de préparer cela. Et c'est donc pas tellement moi, car j'en aurais été incapable, mais j'ai été vraiment aidé par l'Esprit Saint pour préparer cette étude finale, numéro 13. Le titre sera « Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur ». Cette confession disant que Jésus-Christ est notre Seigneur n'est pas moins que celle des apôtres et par eux aussi la confession des premiers croyants. Le titre Seigneur, Kyrios, c'est le plus grand et le plus majestueux employé pour Jésus. Dans le monde du Nouveau Testament, le concept Kyrios avait diverses significations. Il était employé aussi bien pour une formule de politesse que le titre honorifique d'un souverain, de même que par un esclave à l'égard de son maître. Les apôtres, dans leur épître, se qualifient plusieurs fois d'esclaves, serviteurs de Jésus-Christ. Notez les citations suivantes. Romains chapitre 1, verset 1, Philippiens chapitre 1, verset 1, Tite chapitre 1, verset 1, Jacques chapitre 1, verset 1, deuxième épître de Pierre chapitre 1, verset 1, et Jude verset 1. Un seigneur n'était donc pas seulement le propriétaire et le maître de ses esclaves, il en était également responsable. Ce parallèle se rencontre fréquemment dans le Nouveau Testament lorsque Jésus est qualifié de Seigneur de l'Église des croyants. Les premiers chrétiens risquaient leur vie en refusant de qualifier l'empereur romain de Kyrios, ce qui était en ce temps-là une expression courante de la loyauté envers l'empereur. En outre, il nous faut savoir que les empereurs romains s'étaient ajoutés ce titre pour faire étalage de leur prétendue divinité. Selon la vision moyenâgeuse du monde, la domination sur l'Empire romain impliquait aussi celle sur la totalité du cosmos. C'est pourquoi certains chrétiens décidèrent de mourir plutôt que d'attribuer ce titre à un autre, vous l'avez compris, que le Seigneur Jésus qui les avait rachetés et sauvés, auquel appartient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, le nom hébraïque de Dieu, Adonai, fut exprimé par le terme Kyrios. Le nom de l'Alliance, Yahvé, était pour les Juifs, et cela même pendant le service religieux, bien trop saint pour être prononcé. C'est la raison pour laquelle ils le remplacèrent par le nom Adonai. Adonai comportait l'autorité souveraine absolue de Dieu. Le psaume 8 commence par les paroles « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Verset 2. Traduit mot à mot, ce verset dirait « Yahvé, notre Adonai, que ton nom est magnifique. » alors que Yahvé est le nom de l'alliance et personnel de Dieu pour le peuple d'Israël, Adonai était quelque chose comme son titre de souveraineté. Il est donc évident que Jésus est le Seigneur. Il est le souverain. Il est le maître absolu sur toute la création. Elle comprend l'univers en sa totalité. La confession apostolique, cependant, ne dit pas seulement que Jésus est le Seigneur, mais aussi très clairement qu'il est notre Seigneur à nous. La soumission personnelle du croyant à l'autorité de Jésus-Christ en le reconnaissant comme son divin roi fait partie de la foi chrétienne. Une simple confession des lèvres ne signifie rien ici. Jésus dit que plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons et tout cela en ton nom ? Et fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » Saint Matthieu, chapitre 7, versets 22 et 23. Appeler Jésus son Seigneur avec toutes les conséquences qui en font partie, personne ne peut le faire s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Chers amis, les pères de l'histoire de l'Église n'ont pas défendu la position de Christ en tant que chef de l'Église sur la base d'une opinion arbitraire ou par ambition personnelle, mais parce qu'ils tiraient cette vérité manifestement de la Sainte Bible. Notez Éphésiens chapitre 5, verset 23, qui dit que Christ est le chef de l'Église. Et Colossiens chapitre 1, verset 8, nous dit « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul explique que Dieu le Père a tout mis sous ses pieds de ceux de Christ et qu'il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Versets 22 et 23. D'autres passages du Nouveau Testament parlent de croissance à tous égards en celui qui est le chef, qui est Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Et ainsi de s'attacher à Christ, qui est le chef, qui est la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut. Colossiens chapitre 2, verset 19. Que veut dire le Nouveau Testament lorsqu'il parle de Christ en tant que chef de l'Église? Le mot grec pour tête, képhalé, désigne la première ou la plus haute position où tout ce qui est placé le plus haut en première position ou qui est éminent. Sa signification concorde donc partiellement avec le mot Kyrios, Seigneur, et indique la sublime position de Christ ou son statut. Lorsque nous disons que Christ est la tête de l'Église, cela signifie qu'il en est le Seigneur et le Maître. À l'époque de Rome, le chef de la maison avait presque un pouvoir absolu sur les membres de la maison, avant tout sur ses propres descendants, y compris les descendants adultes, et ensuite aussi sur les esclaves. Étant donné que les chrétiens sont des compagnons de la foi et des compagnons de la maison de Dieu, nous avons à nous soumettre à notre maître, le maître de la maison, selon Saint Matthieu, chapitre 10, versets 24 et 25. Donc, à celui auquel tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, Saint Matthieu, chapitre 25, verset 18. Le Nouveau Testament dit que le Père a donné au Fils cette suprême autorité en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens chapitre 1, versets 20 et 21. Après l'abaissement et la mort de Christ, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Son élévation est donc éternelle et son autorité est valable en toute éternité. Le prophète Daniel déclare « On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes langues le servirent. » Donc sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel chapitre 7, verset 4. Le grandiose témoignage de l'Écriture sainte consiste en ce que Jésus-Christ est le Seigneur au-dessus de tous. Romains chapitre 10, verset 12. Il est le chef suprême. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Y compris sur son corps qui est l'Église. Par conséquent, la véritable Église se compose de ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Alors que de faux maîtres rejettent sa position en tant que Seigneur, du moins dans la pratique, les croyants fidèles, eux se soumettent volontiers à l'autorité de Christ et à sa sainte parole et se considèrent comme étant esclaves dans l'œuvre du suprême berger. Malgré la claire doctrine de l'Écriture sainte et du fidèle témoignage de l'histoire de l'Église protestante, on s'étonne de constater que la plupart des tendances dans l'évangélicalisme d'aujourd'hui attaquent la souveraineté de Christ sur son Église. Plusieurs de ces attaques ont lieu ouvertement et sont de nature théologique, comme le rejet de sa position en tant que Seigneur par la théologie appelée la théologie de la libre grâce. Il y a quelques années, ce mouvement a été particulièrement populaire. Le point de vue de la théologie de la libre grâce, ils prétendent que ni la repentance du péché, ni la soumission à Christ ne font partie de la foi salvatrice. quel scandale! Les défenseurs de cette doctrine répondent un genre de foi bon marché et nient que le pécheur doit faire repentance et confesser une entière soumission à Jésus comme Seigneur et Maître au sens biblique. Ils enseignent ainsi, en fin de compte, un tout autre évangile, alors qu'il n'y a pas d'autre évangile. C'est donc une tentative officielle d'altérer l'évangile de Christ. Galates, chapitre 1, verset 7. De nos jours, les dangers sont toutefois essentiellement plus subtils, principalement parce que le mouvement évangélique actuel ne s'intéresse plus à la doctrine. L'évangélicalisme, en majorité, n'est plus motivé par des intérêts théologiques, mais pragmatiques. Les gourous de la croissance de l'Église ne se soucient guère de ce que la Sainte Bible dit, mais de ce qui attire la masse. Les prédicateurs de la prospérité font de l'homme un seigneur, comme si Christ était un genre d'esprit en bouteille, obligé d'accorder à ceux qui font suffisamment de dons la santé, la richesse et le bonheur. Ils choisissent cette voie parce qu'elle interpelle avec succès la chair qui n'est pas sauvée. Même dans quelques cercles conservatifs, des méthodes pragmatiques mondaines, y compris l'humour souvent grossier et une manière grossière de s'exprimer en rigolant, en faisant des vices, je crois que c'est des plaisanteries, et une adaptation presque sans limite aux formes les plus déplorables de la musique mondaine extrémiste, sont énergiquement défendues dans qu'elles conduisent, parce que tant qu'elles conduisent, voyez-vous, ils disent tant qu'elles conduisent à des résultats visibles, pourquoi pas. La triste vérité est que ce n'est pas la fidélité à Christ et à sa sainte parole, mais c'est la popularité qui est devenue le nouveau critère de l'évangélicalisme. Et celle-ci rend contestable la maxime de la souveraineté de Christ sur son Église. En conséquence, les écrits ont été systématiquement remplacés par ce qui paraît plus pertinent ou plus divertissant, pourquoi pas. Et l'entreprise du mouvement d'église indépendant a pour des milliers de soi-disant Christ, des gourous rendus populaires, de construire leur propre empire médiatique et de se nommer pasteur de leur organisation ou église. Mais ils n'intéressent pas ces rois de la foi de construire la véritable Église. Cela se montre dans leur indifférence vis-à-vis de la vérité et leur ardent désir d'agir sur les masses en faveur desquelles ils réduisent à un minimum la sainte parole de Dieu et la position de Christ en tant que Seigneur de l'Église. Ils délaient l'Évangile, écourtent leur prédication de toute façon déjà superficielle et adaptent leur ministère à des méthodes orientées vers le marché. Ainsi, ils se rébellent carrément, on peut bien le dire, ils se rébellent contre Christ. Le Seigneur exprime sa souveraineté dans son Église là où l'Écriture sainte est prêchée, interprétée, appliquée, et lorsque on fait preuve d'obéissance envers elle. minimiser, donc diminuer le rôle dominant de l'Écriture sainte. Cela signifie de traiter le Seigneur de l'Église comme si sa révélation n'était qu'une option. Ce n'est pas moins qu'une mutinerie. Et nous ne pouvons concevoir dans quelle mesure cette rébellion est grave. Les prédications ne sont pas bibliques, n'interprètent aucun texte biblique et ne transmettent aucune doctrine. Et cela, c'est une rébellion carrément contre Christ en tant que chef qui le muselle vis-à-vis de ses brebis. C'est donc une méthode tellement ravageuse qui produit l'indifférence vis-à-vis de sa sainte parole et qui atténue l'effet de son Esprit Saint. Elle fait donc obstacle à la protection contre les erreurs et le péché, élimine la transcendance et la vérité, mutile, on peut dire détruit carrément l'adoration et sème la graine de l'esprit de compromis. La gloire qui est due au véritable chef de l'Église ne lui est pas rendue et le Seigneur ne traite pas favorablement ceux qui le dérobent de sa gloire. Voyez-vous, l'Écriture sainte affirme d'une manière incontestable que Jésus-Christ est le Seigneur de son Église, même si de nombreux chrétiens évangéliques n'expriment pas cette réalité par leurs actes. Mais la position de Christ en tant que Seigneur ne concerne pas seulement l'Église dans son ensemble, mais aussi chaque croyant personnellement. Voyez-vous, tout comme Christ est le Seigneur de son Église, il est aussi le Seigneur et Maître de chaque croyant. En confirmant sa position en tant que chef de toute l'Église, nous reconnaissons en même temps, inévitablement, qu'il est aussi notre Seigneur et qu'il est celui de chaque autre membre de son corps. Dans l'ancienne Rome, il n'était pas inhabituel que des douzaines ou même des milliers d'esclaves servent le même maître. En tant que membres de son foyer élargi, ils étaient responsables vis-à-vis d'un maître. Et comment? Non seulement en groupe, mais aussi chacun en particulier. Donc, la même chose est valable pour l'Église dans laquelle Christ n'est pas seulement le chef du corps en son entier, mais aussi de chaque croyant en particulier. Il est aussi bien le Sauveur que le Seigneur de chaque homme qui l'invoque, selon Actes chapitre 2, verset 21. En appelant Jésus Seigneur, nous le reconnaissons clairement comme étant l'unique maître. Le mot grec pour Seigneur est Kyrios et il se trouve presque 750 fois dans le Nouveau Testament. Sa signification fondamentale est maître ou propriétaire. Il est donc, dans ce contexte, le contraire du mot esclave, doulos. Chers amis, quand nous croyons, nous qui sommes des croyants, quand nous disons ou que nous chantons la confession « Jésus est Seigneur », nous ne confirmons pas seulement son incontestable position au-dessus de l'univers matériel et moral, selon saint Matthieu 28, verset 18, et la première épître de Pétre, chapitre 3, verset 22, et pas seulement au-dessus de l'histoire universelle, selon Romains chapitre 9, verset 5, pas seulement au-dessus de tous les hommes, Actes chapitre 10, verset 36, et Romains chapitre 10, verset 12, qu'il s'agisse des vivants ou des morts, Romains 14, verset 9, pas seulement au-dessus de l'Église, selon Éphésiens chapitre 1, verset 22, mais aussi au-dessus de notre propre vie en tant qu'esclave de bonne grâce. La simple mais décisive vérité est que les deux mots maître et esclave, kérios et doulos, constituent chacun le contraire de l'autre. Kérios et doulos sont deux facettes d'une seule et même relation. Être un doulos, cela signifie avoir un maître, et inversement, un kérios, d'après la définition, c'est un propriétaire d'esclaves. Donc, confesser Jésus comme Seigneur, cela signifie de le confesser comme maître et de nous reconnaître en même temps comme ses esclaves. À l'époque du Nouveau Testament, le kérios avait une entière autorité sur la vie de ses esclaves, que ceux-ci aient travaillé à l'extérieur dans les champs ou dans la maison du maître. Il pouvait charger ses esclaves de toute tâche, comme celle de faire des achats ou de gérer ses biens pendant son absence. Quand il s'acquittait bien de leur tâche, il pouvait les récompenser ou non, étant donné qu'ils avaient accompli ce qu'ils attendaient d'eux. Et lorsqu'ils ne remplissaient pas leur tâche, eh bien le maître pouvait aussi les punir en conséquence. L'entier pouvoir du maître sur ses esclaves était donc, sur le plan culturel, si fortement ancré que Jésus le présupposait dans ses enseignements et pouvait dire que chacun esclave n'est plus grand que son kyrios, que aucun, je voudrais dire là, pour corriger ce que j'ai peut-être mal exprimé, il pouvait dire que aucun esclave n'était plus grand que son kyrios. Jamais. Donc il est, on l'a compris, décisif de comprendre la signification de kyrios, de kyrios, et de son synonyme, parce que cela nous montre clairement ce que veut dire être un esclave de Christ. Passer 2000 ans après la société de l'ancienne Rome, il peut facilement échapper aux lecteurs d'aujourd'hui, du 21e siècle, ce que signifient les notions archaïques telles que seigneur, maître ou esclave. Et ainsi, il leur échappe aussi les vérités que ces mots transmettent. Mais les hommes du premier siècle savaient exactement ce que cela signifiait de se qualifier soi-même d'esclave et une autre personne de seigneur ou de maître. Quand l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens qu'ils avaient été rachetés à un grand prix, selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, et qu'ils étaient toutefois esclaves du péché, mais maintenant esclaves de la justice, selon Romains chapitre 6, verset 17 et 18, ceux-ci savaient exactement ce qu'ils voulaient dire. La déclaration de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 14 souligne encore cela. Il dit « Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, je dis bien, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Si nous vivons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivons ou que nous mourons, nous appartenons au Seigneur. » Versets 7 et 8 de Romains chapitre 14. Donc, à l'époque romaine, un esclave servait entièrement son maître et vivait dans un état de soumission absolue, et son identité est déterminée par son possesseur qui lui donne son nom. En confessant de toute notre bouche que Jésus est le Seigneur, nous devons le confesser franchement de notre bouche. Romains chapitre 10, verset 9, eh bien, là, nous reconnaissons en même temps notre obligation de lui obéir d'une manière absolue. Sa volonté est au-dessus de tout le reste et il est attendu de ses esclaves que nous sommes, que moi je suis, qu'il lui soit obéissant, peu importe la grandeur de leur sacrifice. Sous ce rapport, les paroles de Christ trouvent leur pleine signification dans Saint Luc chapitre 9, verset 23, où il est dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivre le Seigneur, cela signifie renoncer à soi-même, à moi-même, et se soumettre entièrement à sa volonté. Celui qui veut être son disciple doit donc être aussi son esclave. Celui qui n'est pas prêt à renoncer à tout pour le suivre n'est pas digne de lui. Comme le Seigneur lui-même l'a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 39. Donc, en se qualifiant eux-mêmes d'esclaves de Christ, les auteurs du Nouveau Testament soulignent leur entière soumission à la souveraineté de Jésus-Christ. Pour l'apôtre Paul, cela n'implique pas moins qu'une vie dans l'esprit de sacrifice quotidien pour l'amour, oui, pour l'amour de son Seigneur. Un théologien commente, il dit, étant donné qu'un esclave n'était pas une personne juridiquement, eh bien, il ne pouvait posséder aucun bien et n'avait pas même de pouvoir sur lui-même. Il faisait seulement ce qui lui était ordonné. Cela indique dans quelle mesure l'apôtre Paul s'était soumis à son Seigneur. Pour l'apôtre Paul, les biens, le temps, l'ambition et le but d'un esclave de Christ, oui, étant totalement subordonné à la volonté de Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne se différenciait pas d'un esclave normal, il se tenait exclusivement à la disposition de son Seigneur. Tout comme un homme ne peut servir qu'un seul maître, Saint Matthieu chapitre 6 verset 24 et Saint Luc chapitre 16 verset 3, il n'était responsable que devant son Seigneur. Romains chapitre 14 verset 4, ceci est une pensée libératrice pour tous ceux qui sont harcelés par les opinions d'autrui, surtout de nos jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu demander aux croyants de Rome « Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe? » Ça, c'est l'affaire de son maître. Romains 14, verset 4. Aux Philippiens, il a pu dire que la vie, c'est le Christ. Philippiens 1, verset 21. Et toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Je les considère désormais comme étant une perte. Philippiens chapitre 3, verset 7. Aux Galates, l'apôtre Paul a pu annoncer, ce n'est plus moi qui vit, non, mais c'est le Christ qui vit en moi par l'Esprit Saint. Galates chapitre 2, verset 20. Et aux Corinthiens, il a expliqué que ceux qui ont été transformés par l'Évangile ne vivent plus pour eux-mêmes, non, mais pour celui qui est mort à leur place et qui est ressuscité pour eux. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Dans un autre passage, il exhorte ses lecteurs, ou bien encore, il dit « Ignorez-vous que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un très grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Pareillement, l'apôtre Paul expliqua aux Colossiens les effets universels de la domination souveraine de Christ. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Colossiens 3, verset 17. Aux esclaves de cette église, il dit même, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Verset 23. Toujours les épîtres de Paul révèlent, peut-être plus que sur chaque autre thème, une saisissante compréhension de la relation subordonnée d'un croyant à Christ, que Jésus est son Seigneur et lui rien d'autre qu'un esclave, c'est que je suis moi-même. Seigneur Jésus, je te demande maintenant de m'aider encore pour que la voix puisse être audible jusqu'à la fin de cette étude. S'il te plaît, ô mon Papa céleste, Adonai El Shaddai. Oh, merci, merci, merci de ton aide. Chers amis, Jésus est notre Seigneur et aussi celui de l'apôtre Paul, et que nous ne sommes rien d'autre que ses esclaves. Et cette déclaration n'est-elle pas très dure et peut-être même trop partiale? Eh bien, étant donné qu'il s'agit dans cette explication que d'un extrait, mais plus loin, j'essaie d'évoquer l'autre côté du rachat par le sang de Jésus-Christ, à savoir l'adoption offerte aux croyants dans la rédemption. Alléluia. Mais arrêtons-nous brièvement à cet aspect du salut. La Sainte Bible dit que tout homme, de par sa naissance, est mort spirituellement, est vendu au péché, et ainsi est livré sans défense au péché et à la colère de Dieu contre le péché. Que Dieu a racheté beaucoup d'hommes de ce lamentable état du marché d'esclaves du péché et qu'il a fait d'eux sa possession. Cela est un merveilleux message. Certes, le meilleur message que quelqu'un puisse s'imaginer après avoir reconnu combien le péché avec son pouvoir le retient et m'a aussi retenu prisonnier et m'a totalement détruit dans le passé. Aucune personne sauvée par Dieu ne la mérite. Ceci devient particulièrement clair pour nous lorsque nous voyons que le prix de rachat qui a été payé par Dieu était incroyablement grand. Il est dit, vous savez que ce n'est pas par des biens périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la futile manière de vivre que vous avez hérité de vos ancêtres. Non, 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 il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans aucun défaut, verse son sang précieux en sacrifice. Premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Dieu n'aurait pu payer un prix plus précieux, mais rien de moins que ce prix était vraiment indispensable et nécessaire pour nous sauver et pour me sauver. Nous sommes maintenant des serviteurs de Dieu, nous sommes donc ses esclaves, comme le disent véritablement les apôtres, et nous pouvons servir le Seigneur qui est plein de grâce et de compassion. Psaume 145, verset 8. Oui, un Seigneur qui ne nous traite pas comme nous l'aurions mérité, mais selon la richesse de sa grâce. Et à quoi bon tout cela? Nous trouvons la réponse dans de nombreux passages de l'Écriture sainte. Oui, uniquement à la louange de sa grâce glorieuse. Notez, s'il vous plaît, le psaume 79, verset 9, psaume 115, verset 1, Ésaïe 43, verset 7, Ésaïe 48, verset 9, Ézéchiel 20, verset 44, 1 Corinthiens 6, verset 20, et Philippiens, chapitre 1, verset 6, verset 12 et 14. Comme déjà dit, Dieu n'était pas obligé de sauver même un seul homme. Mais en vertu de son immense grâce, il l'a fait. La délivrance de la culpabilité du péché, de la mort et de l'esclavage était un pur cadeau de Dieu à des hommes perdus, totalement perdus comme je l'étais moi autrefois, qui lui avaient refusé la gloire qui les a sauvés. Nous pouvons cependant nous étonner, car il fait beaucoup plus que cela. Dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, l'apôtre écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, écoutez bien cela, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son saint nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un simple désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, non, 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 mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Jérémie chapitre 1, versets 12 et 13. La consolante prédication que Jésus adresse à ses disciples juste avant son arrestation et ensuite son exécution culmine dans la déclaration de Jésus quand il dit « Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jérémie, chapitre 15, verset 15. Oh, oui, Dieu le Père avait appelé ami un certain Hénoc. Oh, c'est loin, très loin, ce Hénoc. Ensuite, il a appelé ami Abraham. Oui, chers amis, en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous ne sommes pas seulement délivrés du terrible tyran. Le tyran, vous savez, c'est le péché. Et nous avons été rachetés par le plus glorieux souverain, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Non, 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 il nous a même appelés enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants et ses amis. Nous sommes héritiers de Dieu le Père et co-héritiers de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Nous qui étions autrefois enfants de la colère, sans aucune espérance, nous sommes devenus maintenant citoyens de son royaume, nous sommes devenus membres de sa famille, et ainsi nous sommes devenus enfants de la justice, selon Éphésiens chapitre 2, verset 3. L'explication de ce changement avec des comparaisons terrestres ne peut jamais lui rendre justice. Pensons un peu aux nombreux orphelins que un certain George Müller a tirés de la misère des rues d'Angleterre pour leur devenir un père aimant. C'était un résultat du changement de George Müller lui-même, qui était dû au fait qu'il est devenu un enfant de Dieu. Mais c'est loin d'approcher l'œuvre de la grâce de Dieu. Dans son livre « Reconnaître Dieu », James Packer, ou Packer, écrit ceci. « Être un enfant de Dieu est donc un don de la grâce. Ce n'est pas par une naissance naturelle que nous le devenons, mais par adoption, comme le Nouveau Testament en témoigne expressément dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Dans le droit romain, c'était une pratique courante que celui qui voulait avoir un héritier pour transmettre son nom de famille puisse adopter un jeune homme comme son fils. Cet adopté était habituellement un adolescent et non pas un petit bébé, comme c'est aujourd'hui usuel. Alors les apôtres expliquent que Dieu a tant aimé ceux qu'il a délivrés sur la croix, qu'il les a tous adoptés comme héritiers, afin qu'ils aient eux aussi part à la gloire dans laquelle son Fils unique est déjà entré. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il rachète ceux qui étaient soumis au régime de la loi, afin que nous jouissions des pleins droits de l'adoption comme fils. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Il s'agit ici de ceux qu'il a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Pardon. Voyez donc, chers amis, combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés les enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment. Lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Premier épître de Jean, chapitre 3, versets 1 et 2. Notez bien toutes ces citations, parce que je peux aussi une fois me tromper. Alors je vous demande pardon, parce que à l'âge de 90 ans, la mémoire n'est plus tout à fait parfaite. Et surtout ma voix, aujourd'hui, c'est un miracle, un vrai miracle de Dieu et de Jésus-Christ que je peux vous parler comme je le fais. Un miracle. Nous sommes donc devenus, chers amis, enfants de Dieu. Et cela nous a été offert par Dieu en Christ. Et c'est le plus grand privilège que nous donne le rachat, en raison de la profonde communion que nous pouvons avoir maintenant avec lui, notre Père, comme nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui, nous savons en outre, en plus, que nous sommes pour toujours enfants de Dieu. Dieu ne permettra pas qu'un seul de ses enfants soit perdu. Notez s'il vous plaît, je crois, Jérémie chapitre 10, versets 28 et 29, Jude verset 1, je ne sais pas, parce que normalement Jude n'a pas de chapitre, je ne veux pas me tromper, est-ce que c'est versets 24 et 25? Ensuite, ça je suis certain, premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 5. Donc, en vertu de cela, Dieu nous traite aussi comme ses héritiers. Nous sommes donc ses héritiers. Puisque vous êtes fils, nous dit-il, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, non, mais tu es maintenant fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates chapitre 4, versets 6 et 7. Que dirons-nous maintenant? La première contribution relative à notre esclavage sous la souveraineté de Jésus est-elle superflue, puisque nous sommes apparemment sortis de l'esclavage et nous sommes devenus enfants de Dieu? La réponse est non. Par notre position, nous menons cette vie sous la souveraineté de Christ. Nous lui appartenons, ayant été rachetés par son sang précieux. Il est notre chef, il nous garde, il nous conduit et nous bénit, nous donne des ordres, il nous régit comme un berger ses brebis. Nous avons besoin de sa souveraineté et de sa conduite, car elles font partie de notre délivrance de la puissance du péché. En tant que rachetés, nous ne planons pas dans une sphère sans souveraineté, non, mais nous sommes à côté de cet esclavage, nous pouvons aussi nous appeler les enfants de Dieu maintenant. nous sommes amis et co-héritiers de Christ. La Sainte Bible, cependant, explique très clairement que l'un ne doit pas exister sans l'autre. Nous ferons pour toujours partie de sa famille et nous le servirons éternellement comme esclaves. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Pour terminer cet exposé, je tiens à répéter que le salut se produit uniquement par grâce. Christ a tout fait en se substituant aux pécheurs et tout ce que nous devons faire, c'est de le croire, lui, et de mettre notre confiance en l'efficacité du sang de Jésus. Cependant, même si le salut se produit uniquement par grâce, ce n'est pas aux frais de la sainteté, non, Dieu ne fera jamais un compromis avec le péché. C'est vrai, le salut est un livre dont c'est un libre don. C'est ce que je voudrais dire. Je répète, le salut est un libre don, c'est une grâce de Dieu, mais nous devons le recevoir avec des mains vides et non pas avec des mains qui se cramponnent encore au monde. On ne peut pas avoir les deux à la fois. La véritable foi salvatrice est plus que le simple fait de croire à tout cela. Un cœur qui est encore plein de rébellion contre Dieu ne peut pas posséder cette foi qui sauve. Il doit d'abord se produire un changement. Seul celui qui est aveugle spirituellement prétendra que Christ sauve aussi toutes les personnes rejetant son autorité et son joug. En croyant cela, même les terribles Hitler et tous les autres despotes pourraient être sauvés. Ne croyez jamais cela. Non. Tout prédicateur disant aux pécheurs qu'ils pourraient être sauvés sans se détourner de leurs idoles, sans se repentir, ni se soumettre à la souveraineté de Christ, donne un message aussi faux et dangereux que celui qui prétend que le salut doit être mérité par de propres exploits et par les œuvres. Et même en vous mettant une balle dans la tête, comme l'a fait Hitler pour échapper au jugement des hommes, ça ne suffira pas. Croyez-le. Oui, chers amis, c'est sérieux. Donc, je vous demande seulement, vous qui avez entendu cet exposé unique, parce que c'était pas évident que je puisse le parler, pas du tout évident à 90 ans, eh bien, je vous demande seulement, si vous avez compris que certains d'entre vous sont encore perdus, est-ce que vous pensez que c'est trop demandé d'avoir un peu d'humilité, de vous mettre à genoux là où vous êtes et de demander au Seigneur, accepte-moi, je demande pardon, accepte-moi tel que je suis et je me rends, je me donne totalement à toi pour te servir. Sauver, non pas pour être assis simplement dans un fauteuil, évidemment c'est mieux que rien, mais sauver pour servir, c'est mieux. Chers amis, je vous mets maintenant, si ça fonctionne, quelques chants d'un très lointain passé, 1958. Oh là là, en ce temps-là, il n'y avait pas de CD et les possibilités de aufnehmen, d'enregistrer, n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Alors, allons-y.
Thank you. Et en tout